Job, chapitre 7, les versets 1 à 7. Job, chapitre 7, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. La vie est rude pour les hommes sur la terre. Ils ont la condition d'un travailleur de force, d'un esclave au soleil qui voudrait un peu d'ombre, ou d'un pauvre ouvrier qui attend qu'on le paye. Tel est aussi mon sort. De mois de déception, des nuits après des nuits à supporter ma peine. Dès que je suis couché, je n'ai qu'une pensée. Quand me lèverai-je? Le soir n'en finit pas. J'en ai assez de m'agiter jusqu'à l'aurore. J'ai le corps recouvert de vermine et de croûte, et ma peau écorchée n'est que plaie purulente. Ma vie aura passé plus vite que la navette d'un tisserand. Elle touche à sa fin quand le fil de l'espoir est arrivé au bout. Ô Dieu, ne l'oublie pas, ma vie tient à un souffle. Mes yeux ne reverront plus jamais le bonheur. Amen. Quel terrible texte. J'ai même hésité de prêcher là-dessus. Je dis, est-ce que c'est cela que les gens vont retenir quand ils vont quitter le temple? C'est pas assez jojo. Mais bon, c'est le texte, il faut prêcher là-dessus. Et avant toute chose, juste une remarque, nous pouvons constater qu'il est préférable même de suivre un quelconque lectionnaire pour les méditations, car cela enrichit nos connaissances bibliques, puisque je soupçonne peu de gens lisent leur Bible en entier de nos jours. Beaucoup, ces temps-ci, se limitent qu'au verset du jour. On préfère ça, les versets flash qui nous interpellent. Et souvent, à ce que je remarque, ce sont toujours les mêmes qui reviennent, n'est-ce pas? Et on met des marqueurs et on ressouligne et à la fin, ça va, il y aura des trous parce qu'on revient, on revient, on revient. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut découvrir d'autres textes. Ça pourrait nous gêner comme aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a une richesse énorme. Alors, nous profitons de cette belle occasion pour découvrir des histoires que nous n'avons peut-être pas encore eu l'occasion d'entendre. La plupart d'entre nous avaient déjà entendu parler de Job, bien sûr. Un monsieur, je récapitule un peu, un monsieur qui a tellement souffert à cause de l'épreuve voulue par le diable, qu'il accusait, qu'il soupçonnait d'aimer Dieu par intérêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'entretien qu'il y a eu entre Dieu et le diable? Il a dit, vas-y. Et j'en ai parlé jeudi passé à l'étude biblique. Dieu a misé sur Job. Dieu a pris le défi, le pari que vas-y, Job sera fidèle à moi. C'est rare qu'un Dieu qui mise sur l'homme. Mais il l'a fait. Ses enfants étaient exterminés, ses récoltes et son bétail détruits, pillés. Sa femme insistait auprès de lui pour qu'il maudisse son Dieu afin de vite mourir. Et ce n'est pas fini. Par ailleurs, ses soi-disant amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, étaient aussi venus dans le but de le rendre visite, de le consoler, mais vite fait, cette visite a tourné à une visite moralisatrice. Alors, notre ami Job a pété un câble. Notre texte de ce matin est la suite de la réplique de Job au chapitre 6. La première réplique au chapitre 6, il se plaint de ses amis. Et après, au chapitre 7, il se plaint de Dieu. Et en lisant ces deux répliques, j'ai lu aussi la première réplique au chapitre 6, une question s'impose. Comment se fait-il que dans Job, par exemple, au chapitre 2, verset 10, il est dit « En tout cela, Job ne péchait pas par ses lèvres. » Avec ce verset, nous avons tous cru, moi y compris, que Job était un monsieur très stoïque qui ne s'est pas emporté contre Dieu face à ce qu'il a vécu. Eh bien non, c'est faux. C'est une croyance populaire chrétienne. Ce qui est annoncé dans le chapitre 2, disant que Job ne péchait pas par ses lèvres, c'était face à sa femme qui voulait le pousser à bout pour maudire l'Éternel. Et c'était précisément que pour cette situation-là. Donc il ne faut pas généraliser, il ne faut pas idéaliser Job, que voilà, c'est un exemple à suivre. C'est vrai que c'est un exemple, mais il a failli comme tout le monde. Mais ici, nous pouvons voir clairement que le grand Job ose maudire ce qu'il avait dans son cœur. Il dit « Maudit le jour où je suis né ». Il a osé dire ce qu'il avait dans le cœur à cause de ce qu'il a subi. Il refusait catégoriquement les reproches de ses trois amis. Et si vous lisez tous les reproches des trois amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, ce sont des sagesses. C'est la sagesse humaine. On voit qu'ils ont raison quelque part. Pensant forcément qu'il a fait quelque chose de mal, si toutes ces choses lui tombent dessus, ce n'est pas normal. Et je suis plus qu'étonné de voir l'audace que Job avait. Car même qui parmi nous pourrions contredire les reproches faite par ses trois amis. C'était tellement bien dit, c'était tellement bien formulé, convaincante, mais fausse. Ah oui, parfois il y a des arguments qui tiennent la route, qui sont logiques, bien argumentés, bien documentés, mais qui est fausse. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas tout, l'audace de Job m'impressionne fortement et m'interpelle. Non seulement il a osé contredire les soi-disant vérités de l'époque, mais il a aussi tenu tête à l'Éternel en voulant lui parler franchement. Il ne refuse pas ce que Dieu lui fait vivre. Regardez bien la nuance. Il ne refuse pas ce que Dieu lui fait vivre, c'est-à-dire les épreuves, mais il ose plaidoyer une requête spécifique et je vais relire cette requête, versets 1 à 3. La vie est rude pour les hommes sur la terre. Ils ont la condition d'un travailleur de force, d'un esclave au soleil qui voudrait un peu d'ombre ou d'un pauvre ouvrier qui attend qu'on le paye. Tel est aussi mon sort. L'accepte. Des mois de déception, des nuits après des nuits à supporter ma peine. Vous voyez ces versets? Mais à la suite, il fait un exemple ici, il demande une trêve, une sorte de pause. Ces gens-là, ils souffrent, c'est vrai, les esclaves, ils souffrent. Les travailleurs, quand ils doivent travailler dans les champs, ils souffrent, mais ils ont un moment de pause, non? Mais qu'ils puissent respirer même juste 30 minutes. C'était la demande de Job. Oui, je suis d'accord avec ce que tu me fais, Dieu, mais accorde-moi une trêve de temps en temps. Et il prend comme exemple le soldat. Il va au combat, mais il a des droits, le soldat. Il peut prendre des permissions pour voir sa famille de temps en temps. Et même, il y a les moments de trêve pendant les fêtes, même en pleine guerre. Les combats peuvent s'interrompre pour cette occasion. Et la deuxième illustration qu'il prend, Job, c'est l'esclave. L'esclave qui, normalement, qui n'a aucun droit, qui travaille dur. Ils ont quand même des moments de répit pour aller manger à l'ombre, afin de se ravitailler en eau, en nourriture, et après revenir au boulot. Mais malgré tous ces statuts-là, ils ont droit à un strict minimum pour épargner leur vie. Alors là, Job a eu un point fort pour sa plaidoirie devant l'Éternel. Mais ce que Job se plaint, c'est que sa vie est pire que la vie d'un soldat. pire que la vie d'un esclave, parce que vu ce qu'il a subi, il n'a pas eu de répit. Les malheurs lui tombent dessus comme une pluie battante d'un seul coup. Et si on fait une petite récapitulation de ses malheurs, ses serviteurs tous tués par les Sabéens, les Chaldéens pillés, ses chameaux, les serviteurs tués à l'épée, tous ses enfants sont morts parce que la maison où ils étaient a été frappée par une tornade et la maison s'écroulait sur ses enfants. Et en bonus, Job fut frappé d'une ulcère malin, de la tête jusqu'aux pieds. Quel désastre! Pas de répit. Et là, il s'adresse à Dieu. Pause, s'il te plaît. Pause. J'en peux plus. Et c'est humain. Voilà le vrai Job, mais pas le Job qu'on a idéalisé. Constatez par vous-même, n'est-il pas plus que normal qu'il fasse ses plaintes vers le Seigneur? Soyez objectifs. Qui pourrait lui reprocher de son cri qui monte vers son Dieu? Moi, je n'oserais même pas. Déjà, même la moitié, même le dixième de ce qu'il a vécu, je ne pourrais pas. Est-ce que, la vraie question qui se pose, est-ce que Job a perdu la foi? S'il lance ses cris et ses plaintes, ça c'est un grand débat. A-t-il perdu la foi? Je ne sais pas. Mais j'ose dire, je ne crois pas qu'il a perdu la foi. Pour une simple et bonne raison. Et là, on va feuilleter la Bible dans Job même, chapitre 1, verset 21 à 22. Job chapitre 1, 21 et 22. Au nom de Jésus. Il déclara, « J'étais nu quand je suis venu au monde. » C'est nu aussi que je le quitterai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Je n'ai qu'à remercier le Seigneur. Et dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Et aussi au chapitre 3, versets 9 à 10. Nom de Jésus. Qu'elle ne puisse voir l'étoile du matin. Qu'elle espère le jour, mais qu'elle attende en vain, et n'aperçoive pas l'aurore qui s'éveille, car elle n'a rien pour m'empêcher de naître et de voir aujourd'hui cette dure misère. Ici, il revient à chaque fois que ses lèvres ne péchèrent pas contre Dieu. Or, si nous lisons bien le chapitre 7 en entier, il décrit sa douleur. Et se pose des questions, pourquoi Dieu au moins ne lui a pas accordé ce moment de répit? Et je reprends ma question de tout à l'heure, est-ce que Job a perdu la foi ou est-ce qu'il a abandonné sa foi en Dieu? Pour pouvoir répondre à cette question, je crois qu'il ne suffirait pas de se baser uniquement qu'à notre péricope de ce matin, mais il va falloir tout lire le livre de Job en entier, mais on n'aura pas le temps. Mais je vais vous brosser un peu l'image du livre. Au chapitre 1, quand il a entendu ce qui arrivait à ses serviteurs, à ses bovidés, il se leva et déchira son manteau, se rasa la tête, se prosterna par terre en disant « Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Là, nous pouvons dire qu'il a encore bien réagi, comme s'il a passé le test numéro 1. On met like. Il a tenu le coup. Bravo. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, une deuxième nouvelle. Il fut frappé par une ulcère de la peau. Mais là aussi, il a su remettre sa femme à sa place en lui répliquant, « Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » Deuxième acte. Il tient bon. Il est encore bon, Job. Mais par la suite, Job s'emballe dans un moment de délire après, quand il regrette d'être né au chapitre 3. Tout à coup, il change. Et vient après les longs échanges avec ses amis. Et en faisant une lecture un peu diagonale de son livre, on peut voir chez Job un homme qui lutte contre lui-même. Pas contre Dieu, contre lui-même. Tantôt, il tient bout et donne même des conseils à sa femme. « T'es folle, toi. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Hein. » On peut voir aussi un homme qui donne des leçons, mais à la fin, il est abattu. Telle est la vraie vie du grand serviteur de Dieu, Job. Et je me suis dit, « Ah, ouf, au moins quelqu'un comme moi. Il n'a rien de si spécial que moi. » Il souffre comme moi, il se plaint comme moi, mais à un certain moment aussi, il se résigne, trouve la force et le courage de redresser la tête comme moi. Et donc, pour répondre à la question du départ, est-ce que Job avait perdu la foi? Non, il ne l'a pas perdue. À vrai dire, c'est la foi qui l'a maintenu en place. Vous voyez la différence? Et non l'inverse. Souvent, nous croyons que c'est nous qui devons faire des choses, des performances incroyables pour entretenir notre foi. C'est souvent la question des gens. Qu'est-ce que je dois faire pour entretenir ma foi? C'est la mauvaise question qu'il faut poser. Mais la vraie question, c'est comment la foi nous entretient. C'est la foi qui nous maintient debout, c'est pas nous. Vous voyez? C'est cette foi-là qui ne vient pas de nous. Et là, ça prouve que la foi est un don. La foi n'est pas une performance, la foi n'est pas une intelligence, la foi n'est pas le stoïcisme. La foi, c'est Dieu qui te relève quand tu es par terre. Ça, c'est la foi. Alors, c'est elle qui nous redresse à chaque fois, comme le dit les versets suivants. Écoutez bien, Proverbe. Un honnête homme peut tomber très souvent, sept fois. Tous les coups du sort, mais il s'en relève toujours. Nous sommes accablés, de Corinthiens 4, 8, 9, de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, jetés à terre, mais non anéantis. Et enfin, dans Matthieu, il ne cassera pas le roseau déjà plié, et n'éteindra pas la lampe dans la lumière faiblie. Eh oui, chers frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Et pour terminer, rappelons-nous de la fable de la fontaine à propos de la chaîne et du roseau. Le chêne un jour dit au roseau, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs, l'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine l'arbre. Celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts, alors à ce moment-là, le roseau résiste, mais l'arbre déraciné. Alors soyons des roseaux à la fois fragiles, mais aussi malléables. Amen.